nous chanterons le temps des cerises, et gay rossignol et merle moqueur seront tous en fête.
Bonjour à tous, nous venons d'entendre un extrait du Temps des cerises, chanson souvent associée à la commune de 1871 et qui fait partie de la playlist du MOOC Impressionnisme.
Alors je rappelle aux auditeurs que le M de MOOC n'est pas pour Marie, désolé Marie, ni pour Mathilde, ni pour manger, et encore moins pour Misterbe, qui reste néanmoins un des plus mignons Pokémon plantes. MOOC est un acronyme, sigle anglo-saxon, qui pour une fois a conservé l'ordre d'origine des lettres, pas comme UNO qui est devenu ONU dans la langue de Molière.
Alors, un MOOC, Massive Open Online Course, est un dispositif d'enseignement en ligne. Cet automne, on a vu apparaître pour la première fois en France un MOOC culturel, lancé par la RMNGP, réunion des musées nationaux Grand Palais et Orange, offrant un apprentissage en histoire de l'art sur le courant impressionniste. Guillaume, Analéa et Ariane sont aujourd'hui ici pour nous en parler.
Pourriez-vous d'abord vous présenter, puis nous expliquer en deux mots votre intérêt pour ce MOOC impressionnisme ?
Bonjour, je m'appelle Guillaume. Je vais me définir peut-être comme un mangeur de tarte au citron, parce qu'il se trouve que j'en mange depuis 31 ans, ayant eu le bonheur de goûter la tarte au citron pour mon premier anniversaire, et depuis je ne m'en passe plus. Accessoirement, j'aime bien restaurer des vieux biclous pour les revendre ensuite à des personnes que ça intéresse.
Bonjour, je m'appelle Analéa, je suis américaine, j'habite à Washington, D.C. C'est ma première année, ma deuxième année, pardon, à Lyon, et je suis rapidement devenue accro des bonnes baguettes bien cuites, des tartes aux framboises et des brioches aux pralines.
Bonjour, moi c'est Ariane, je passe pas mal de temps en Suisse et j'ai rapidement adopté les coutumes locales comme la fondue hebdomadaire ou l'écoute de 120 secondes quand ça existait encore. En revanche, je n'arrive toujours pas à y manger des viennoiseries, sauf quand je suis certaine qu'elles viennent de France.
Ce qui nous réunit tous les trois.
Alors que nous sommes si différents.
C'est vrai que tu es beaucoup plus barbu que moi et Ariane. Donc, ce qui nous réunit, c'est avant tout un intérêt, voire une passion pour le monde des musées et son rapport au numérique, mais également notre formation. Nous faisons tous les trois partie du Master Architecture de l'Information de l'ENS de Lyon. Et dans le cadre de ce master, nous suivons un cours sur le e-learning, c'est-à-dire sur les dispositifs d'apprentissage en ligne.
Et c'est donc précisément en fait par le biais de ce cours que nous en sommes venus à participer, mais surtout à analyser ce MOOC impressionnisme, et notamment les dispositifs d'apprentissage qui l'intègrent.
Alors, on va en venir à l'analyse, on va aborder les questions d'apprentissage et de pédagogie, mais je vous propose d'abord de nous présenter l'objet dont il est question. Le MOOC impressionnisme, qu'est-ce que c'est ?
Alors, ce MOOC est composé de 8 séquences qui sont ordonnées, qui partent du contexte de la naissance du mouvement impressionniste et se terminent sur le sujet du marché de l'art et son fonctionnement à l'époque, mais également de nos jours. On peut les effectuer dans l'ordre que l'on veut. Les 8 séquences ont été mises à disposition dès le premier jour. On apprend des choses sur la technique, sur les peintres les plus connus, comme Manet ou Degas, mais également sur la France au XIXe siècle et le rôle du marchand d'art.
Et donc je crois que là, peut-être ce qui serait donc intéressant de préciser, c'est le fait que si effectivement une partie non négligeable des séquences traite du marché de l'art, c'est précisément parce que ce MOOC se déroule donc en parallèle d'une exposition présentée au musée du Luxembourg, dont le nom est Paul Durand-Ruel et le Paris de l'impressionnisme. C'est une exposition donc, qui a ouvert ses portes le 9 octobre, et les cours du MOOC ont commencé peu après, puisqu'ils ont commencé je crois le lundi 20 octobre, pour être précis. Ils étaient destinés à s'étaler sur 8 semaines, c'est-à-dire que le MOOC reste ouvert en réalité jusqu'au 14 décembre.
Ah donc là, en fait, pour ceux qui nous écoutent, c'est grillé, ils n'auront pas la possibilité de participer au MOOC ?
Si, ils le pourront de façon active jusqu'au 20 décembre. Mais passé cette date, il n'y aurait plus d'animation ou de forum spécifique aux activités. Ils seront limités à la consultation et au visionnage des contenus. Toutefois, une fois passée la date du 8 février, plus d'exposition et plus de MOOC. Par ailleurs, la plupart des contenus qui composent des séances se trouvent déjà en ligne, à l'exception des résumés vidéo très denses qui ont été produits spécialement pour l'occasion.
J'ai eu la chance d'avoir un entretien avec Françoise Fernandez, qui s'occupait de ce projet côté Orange, et avec Annelise Guinchard, qui en était également chargée, mais côté RMN. Je vous propose donc de les écouter, nous expliquer comment le contenu a été produit, mais également comment le projet est né.
Et Ariane, avant que tu me partages un extrait de cet échange avec nous, est-ce que tu pourrais d'abord nous expliquer en deux mots ce qu'est la réunion des musées nationaux et son rapport avec le MOOC impressionniste ? Pour moi, c'est pas tout à fait clair en fait.
Donc la RMN, Réunion des musées nationaux, est une institution qui s'occupe notamment de gérer le fonds photo et les catalogues de la plupart des musées de France. Elle est impliquée dans l'exposition Paul Durand-Ruel puisque c'est elle qui gère le musée du Luxembourg. Et ces conservateurs ont donc participé au MOOC en ayant validé et corrigé les contenus proposés. Il faut bien avoir en tête toutefois que le MOOC repose à la fois sur la RMN, mais également sur Orange et sur MOOC et compagnie, qui est la société de Christine Vaufray. Mais je vais les laisser s'exprimer pour vous expliquer comment cela a fonctionné entre ces trois entités pour donner naissance à ce MOOC.
Je suis Françoise Fernandez, je travaille à la direction des partenariats culturels et institutionnels d'Orange. Mon métier est plutôt un métier de chef de projet.
Je suis Alice Guinchard, je travaille à la RMN Grand Palais et je suis également chef de projet. La RMN Grand Palais est intervenue sur le MOOC, surtout en termes de contenu. Et en l'espèce, voilà, Orange a fait et la gestion de projet, et la production, et la mise en forme de ces contenus. Donc chacun a amené en fait nos maîtrises d'œuvre dans ce projet-là. Et c'est Christine qui a tout fait pour que ça fonctionne.
Quand j'étais déjà partenaire de la Réunion des musées nationaux, on avait été partenaire sur l'exposition Dynamo qui avait lieu l'année dernière. Et donc là, l'idée, c'était de reconduire notre partenariat avec la Réunion des musées nationaux et de trouver un nouveau projet qui répondait à la demande de la RMN, qui était d'essayer de tester une nouvelle forme de relation avec les publics, pour nous aussi. Et l'idée du MOOC est venue assez rapidement, finalement. C'est assez dans l'air du temps. Il n'y avait pas de MOOC culturel jusqu'à présent. Donc l'idée d'en tester un en lien avec une exposition physique, c'était important d'avoir un ancrage physique. Donc c'est venu assez vite, et de là, une fois qu'on était d'accord sur, ensemble sur nos objectifs, on s'est appuyé sur Solerny, qui est donc une plateforme de MOOC développée par Orange, et on s'est surtout appuyé sur Christine Vaufray, donc qui est consultante, qui est spécialiste de tout ce qui est pédagogie des MOOC. Et donc Christine nous a expliqué ce qu'était un MOOC, comment ça fonctionnait, et surtout ce qu'on devait retrouver dans un MOOC.
Alors, si j'ai bien compris ce qu'on vient d'entendre, ce MOOC a été lancé par Orange et la RMNGP, mais il a été conçu à la fois par ces deux entités et par Christine Vaufray. Et elle, si j'ai bien compris, elle a déjà une expérience solide en matière de MOOC.
Oui, c'est exactement ça, puisque Christine est, entre autres, donc, assez connue dans le monde des MOOC pour avoir participé au lancement du MOOC ITIPA, qui est l'acronyme de Internet Tout y est pour apprendre, et le premier ITIPA a eu lieu, je crois, il y a 3 ans. Et donc, selon ses propres termes, le MOOC impressionnisme, c'est une proposition, dans le sens où il offre des contenus, il offre des parcours, il offre des activités, mais c'est à charge donc aux participants d'en faire exactement et absolument ce qu'ils veulent. Ils les consultent uniquement s'ils le désirent, dans l'ordre qu'ils le souhaitent, à leur propre rythme. Et de ce fait-là, il n'y a absolument aucune espèce de prérequis ni d'engagement. Et du reste, il est assez intéressant de noter que Françoise Fernandez, donc la personne chez Orange, utilise quant à elle une autre expression pour caractériser ce MOOC, et elle en parle en des termes qui consistent à dire que ce MOOC sert à apprendre, mais apprendre pour se faire plaisir.
D'accord. Et or vous, Ariane, Analia et Guillaume, est-ce que vous avez une définition qui vous est propre du MOOC impressionnisme, une expression pour le caractériser un peu pour nos auditeurs ?
Pour moi, je trouve que c'est une modalité d'apprentissage ouverte et flexible qui repose justement sur le plaisir d'apprendre et d'étudier l'art.
Ouais, alors moi, en ce qui me concerne, justement, le fait que ce MOOC-là soit aussi peu contraint que possible prend plutôt la forme d'une mise à disposition intelligente de contenu, et une mise à disposition dont on souhaite qu'elle soit aussi, alléchante et réfléchie que possible, mais avec si peu d'obligations, en somme, qu'on est bien là dans le fait de proposer, et non pas d'inviter, d'enfermer et de rendre les gens plutôt captifs.
Personnellement, j'aimerais insister sur l'idée de partage. Ayant joué les animatrices durant une partie du MOOC, c'est un des aspects que je trouve les plus intéressants. Selon moi, ce MOOC impressionniste repose véritablement en partie sur l'idée d'apprentissage par les pairs.
Très bien, mais en fait, en vous entendant, on s'aperçoit que vous n'avez pas tout à fait la même vision de ce dispositif. En tout cas, vous n'avez pas choisi d'insister sur les mêmes facettes. Du coup, j'ai en tête un objet protéiforme et je vois pas très bien comment il fonctionne. Est-ce que vous pourriez nous décrire comment ça marche ? Comment apprend-on avec ce MOOC ?
Oui, je pense que c'est effectivement une bonne idée. Alors en ce qui me concerne, j'ai effectué 2,5 séquences sur le MOOC, la 0,5 qui me manque, elle ira aux pertes et profits. Et en gros, les choses, elles se passent de la façon suivante, c'est-à-dire que chaque séquence donc, Ariane expliquait qu'il y en avait 8, je crois. Chaque séquence a un thème, lequel est découpé en, sous-thèmes. Par exemple, la dernière séquence donc, portait sur le marché de l'art, et elle se trouve divisée entre différents sujets que sont les changements survenus dans le marché de l'art à la fin du 19e siècle, le marché de l'art à l'époque impressionniste, les acteurs de ce marché aujourd'hui. Pour chacun de ces thèmes, donc, une vidéo d'introduction est proposée. Et en l'occurrence, c'est donc un comédien qui se trouve dans un décor aussi simple que possible et qui, pendant 8 minutes, nous fait une réelle introduction et une immersion aussi simple et digeste qu'il le peut, avec une diction, avec un ton, avec un calme, tout ça, qui favorise quand même assez bien, je trouve, l'entrée quoi, dans le thème. Et ensuite, à cette vidéo, donc, sont associés des contenus qui portent sur trois champs que sont l'histoire, la société et l'histoire de l'art appliqués donc à ce thème-là. Et ceux-ci, pour le coup, peuvent prendre la forme d'articles publiés sur le net, mais aussi de vidéos, de sources audio. En fait, ce qu'il est, je crois, assez important là de relever, c'est que ces ressources-là, elles existaient par ailleurs sur le net, et que le MOOC les met à disposition suite à un travail qu'on pourrait dire en fait de curation. C'est-à-dire que plutôt que de réinventer la roue et de réécrire des choses qui existaient déjà par ailleurs, ils ont fait le choix en fait éditorial de recycler et de remobiliser des contenus pour la plupart écrits, je crois, par la RMN, donc qui ont une certaine forme de caution intellectuelle. Et en complément de ça, donc, d'autres ressources sont proposées, plutôt celles-ci en guise de bonus, dans l'optique de permettre aux gens qu'ils souhaitent d'aller plus loin, et en l'occurrence, ces bonus-là, c'est vraiment du facultatif. Donc les connaissances acquises grâce à ces supports, autres que donc les bonus, sont appréciées, sont testées, à l'aide de quiz, facultatifs eux aussi, notés sur 20 points, et lesquels sont présents donc à la fin de chaque séquence. Ces quiz, dans un sens, ils sanctionnent la fin de chaque séquence et permettent du coup l'obtention des badges.
Non mais attends Guillaume, tu t'emballes. Avant d'arriver au quiz, on passe par des activités. Ces activités sont proposées pour chacun des thèmes des séquences. Il y a donc 2 à 3 activités par séquence. Elles sont très variées, ça peut être la rédaction sur le forum d'une opinion ou d'un avis sur une question donnée, une sélection plus ou moins argumentée de tableaux, passant par la prise en main d'outils numériques comme Padlet. D'ailleurs, on a remarqué que tous les apprenants n'étaient pas familiarisés avec ces outils et certains ont pu rencontrer des difficultés pour les utiliser. Dans ce cas-là, ils avaient la possibilité de s'adresser aux animateurs, de le signaler sur le forum, afin d'obtenir une aide. Toutefois, le forum ne sert pas qu'aux activités, il laisse la possibilité aux apprenants de créer des fils de discussion, de partager entre eux et avec l'équipe du MOOC. Voilà le mode d'emploi du MOOC impressionnisme.
Mais allez, vous avez oublié un dernier point qui est pourtant pas négligeable, les conclusions des séquences données sous forme d'une page de bande dessinée chaque semaine.
Oui, c'est vrai. Ces pages sont très pédagogiques et assez plaisantes à parcourir. On les trouve sur le MOOC, mais aussi sur le compte Twitter MOOC Culture, qui correspond au compte du MOOC Impressionnisme.
Pardon, mais en fait, je suis pas sûre d'avoir tout suivi. Je croyais que l'ensemble des séquences et leurs ressources avaient été mises à disposition des participants dès le premier jour. Pourquoi est-ce que vous dites maintenant que ces fameuses pages de conclusion ne sont délivrées qu'au compte-gouttes, au rythme d'une par semaine ?
Bien joué, Mathilde. C'est une excellente remarque. Effectivement, tous les contenus, à l'exception de ces pages de conclusion de séquence, ont été mis en ligne dès le 20 octobre, et c'est dans l'optique qu'il n'y a aucune obligation vis-à-vis des apprenants. Ils doivent pouvoir parcourir le contenu et les séquences à leur guise, dans le sens qu'ils veulent, au rythme qu'ils veulent, un peu comme les séries sur Netflix. Toutefois, ce MOOC a bel et bien un début et une fin. C'est un objet avec une durée limitée, et ses concepteurs lui ont donné une cadence, si vous voulez, qui toutefois reste encore là de l'ordre de la proposition. Cette cadence correspond à une séquence par semaine, ça représente environ 2 heures de travail. Ainsi, à la fin de la première semaine, vous aviez accès à la page de conclusion de la première séquence, à la fin de la seconde semaine, à la page de conclusion de la seconde séquence, etc. On a constaté que beaucoup d'apprenants ont suivi ce rythme d'une séquence par semaine, mais pas tous.
Oui, surtout qu'il y en a pas mal qui sont arrivés en cours de route, voire au but du chemin. Et qui, du coup, ont fait très vite les séquences pour finir le MOOC avant la date officielle de fin, qui est le 14 décembre.
D'accord, donc il y a des retardataires qui commencent à suivre le MOOC en retard. Vous savez combien à peu près ou...
Ouais, non, donc ça, c'est une chose qu'on ne sait pas, mais en revanche, lorsqu'on se connecte au MOOC, il y a toujours une sorte de fil d'actualité reprenant les messages les plus récents. Et on a pu voir, en l'occurrence, de nombreux messages de nouveaux inscrits qui se présentent, et ce, jusqu'à encore ce matin.
Pour vous donner une idée, en termes de chiffres, voilà ce qu'on sait. On sait qu'il y a 3500 personnes qui suivent le MOOC sur une semaine, c'est-à-dire qui le consultent, qui y contribuent. Au 8 décembre, il y avait 13 469 inscrits, et sur ces 13 469, près de 500 ont déjà fini le MOOC et obtenu leur 8 badges. Ce qui est intéressant, c'est que certains, une vingtaine je dirais, avaient déjà fini le MOOC et obtenu leur super badge dès la première semaine. C'est allé très très vite, comme me l'a raconté Françoise Fernande. D'après elle, certains attendaient l'ouverture du MOOC et se sont apparés très très vite et ont commencé à poster rapidement des messages sur les forums.
Ouais, mais enfin, après on ne sait pas non plus exactement combien de ces inscrits-là se sont donc engagés dans au moins une séquence. Et de fait, il y a également beaucoup de personnes qui ont sans doute lâché le MOOC au fur et à mesure que les semaines passaient.
Oui, mais ça, c'est normal. C'est un phénomène qui est typique des MOOC. Et d'ailleurs, les concepteurs de ce MOOC-ci l'avaient anticipé et ont essayé de le pallier. Dans le cadre donc, de ce dispositif, la tentation d'abandonner était peut-être d'autant plus grande qu'il n'y avait aucune contrainte de réussite, le MOOC n'étant pas diplômant, ni de contrainte financière, ce MOOC étant financé entièrement par Orange et proposé gratuitement à tous les apprenants.
Mais alors, comment les concepteurs ont-ils essayé de limiter ce phénomène d'abandon et est-ce qu'ils ont réussi ?
Alors, il y a eu des défis proposés. Ces défis étaient ponctuels. Ils ne se déroulaient que sur une semaine et ont été mis en ligne à des moments que je qualifierais de stratégiques. Au milieu de la période du MOOC, soit au bout de 4 semaines et lors de la dernière semaine, c'est-à-dire lundi dernier. Ces défis reprenaient au hasard des questions des quiz proposées dans les séquences.
Mais surtout, ils permettaient de gagner des cadeaux ! Des cadeaux ! Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle les participants se sont emballés, mais en tant qu'animatrice, j'ai répondu à de très nombreuses questions concernant ces défis. Quand est-ce qu'ils allaient avoir lieu ? Est-ce qu'il était possible de les passer même après la date limite ? Est-ce qu'ils donnaient lieu à un badge ? J'ai vraiment eu le sentiment que ça a plu, mais je crois qu'on ne connaît pas l'impact que ça a pu avoir sur la fréquentation du MOOC en termes de chiffres. Personnellement, je ne pourrais pas vous dire combien ont continué ou se sont mis au MOOC grâce à ces défis, dont l'existence était par ailleurs signalée non seulement par les newsletters, mais également par le compte Twitter du MOOC.
Et sur ce compte Twitter, est-ce que les cours étaient proposés aussi ?
Ouais, donc non, pour le coup, le Twitter, il sert plutôt comme un mode de communication, dans le sens où des nouveautés sur ou en rapport avec le MOOC ou l'exposition, donc ils sont mis en ligne. D'ailleurs, à ce propos, deux hashtags donc, ont été proposés, ou mot dièse, le hashtag du MOOC, MOOC Impress, et le hashtag de l'exposition, hashtag donc, Paul Durand Ruel, de manière à relayer assez facilement ces informations entre elles.
Très bien, moi j'aimerais savoir, est-ce que vous avez fait d'autres MOOC ? Et d'abord, est-ce qu'il y en a d'autres en France ?
Alors oui, il est clair que des MOOC en France, on en voit fleurir depuis un certain temps. Il y a même une plateforme officielle française qui a été mise en ligne qui s'appelle FUN. On évoquait aussi donc un petit peu plus tôt ITIPA. On peut également dire que la plateforme Solerni, donc, qui est la plateforme que propose Orange pour la mise en ligne de ces MOOC, propose également d'autres MOOC, des MOOC sur le code informatique, sur le métier de web conseiller en particulier. Mais en tant que MOOC, disons, culturel, celui-ci est le premier de son genre et c'est bien ce qui en fait sa spécificité.
Toutefois, on peut souligner que si à l'ENS de Lyon, on n'a pas de MOOC dit culturel, l'école propose elle aussi des MOOC, depuis maintenant cette année, il me semble, sur les mathématiques, l'Union européenne et très prochainement l'architecture de l'information.
Ah, mais c'est vous ça. Donc merci Guillaume, merci Ariane, merci Analia d'avoir partagé avec nous votre regard sur le MOOC impressionnisme. On compte sur vous pour nous en dire plus très prochainement. Et on se quitte sur une musique que j'aime beaucoup, les Gymnopédies d'Eric Satie, qui manifestement inspire à la contemplation de tableaux impressionnistes.
Il est chiant ce mot.